Bonjour à tous. L'apôtre Paul prononçait ces mots dans une de ses lettres, la première à l'église de Corinthe. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et la même opinion. Et dans une autre traduction que celle que je viens de vous lire, il est écrit de manière plus courante dans la version seconde, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans la deuxième épître adressée aux Corinthiens, il redit à nouveau, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. L'apôtre Paul a utilisé deux fois dans le Nouveau Testament et dans notamment l'Épître aux Corinthiens ce mot. Ayez les mêmes sentiments ou un même sentiment. C'est-à-dire que dans cette lettre aux Corinthiens, il a utilisé quasiment un tiers des fois où la Bible parle de sentiments. Il n'y a que sept fois ce mot en français qui peut être rendu par le terme sentiment. Et quand je lisais ce texte il y a quelque temps, je me disais, mais c'est fou parce que les sentiments habitent nos vies. C'est le centre même de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Non ? Juste que je fasse un sondage là ce matin, qui dans les 15 derniers jours n'a eu aucun sentiment de quelque nature que ce soit dans sa vie ? Qui ? Bon, 15 jours, ça fait peut-être un peu long. Qui, dans la dernière semaine, n'a eu aucun sentiment vécu, ressenti, perçu ? Ah, d'accord. Donc, qui n'a pas eu aucun sentiment dans les dernières 24 heures ? Personne non plus. Et ce n'est mentionné que cette fois, ce mot-là, dans la Bible. Quelque chose d'aussi fort. Deux citations de ce mot en français, si vous cherchez dans une concordance, dans l'Ancien Testament et cinq dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, s'il n'y a pas ce mot qui est évoqué et qui semble être pourtant tellement présent dans nos vies personnelles, est-ce que ça veut dire en fait que dans la parole de Dieu, les sentiments humains, finalement, n'ont aucun intérêt et qu'on n'est que des êtres spirituels ? Déjà dans les cieux et dans la présence de Dieu, et que les sentiments, finalement, ont très peu d'importance. Soyons tous des êtres spirituels et bannissons les sentiments. Non, hein ? Je vois que ça ne vous convient pas non plus, hein ? Non, c'est vrai. Alors, on peut se demander alors, pourquoi il n'y a que cette fois cette traduction en français qui, en plus, traduit des mots différents. Il n'y a que deux citations qui sont faites avec le mot « sentiment » en français dans l'Ancien Testament, et en plus, ce sont des mots hébreux différents. Et pareil pour le Nouveau Testament, les cinq citations qui sont faites dans la version seconde du mot « sentiment » sont des mots grecs différents aussi. Alors, il ne s'agit pas d'en tirer une conclusion hâtive en se disant que, les sentiments n'ont pas de place dans la parole de Dieu. Il ne faut pas non plus en tirer de conclusion parce que les sentiments, ces sept passages mentionnés, représentent des groupes d'hommes pour cinq d'entre eux. Donc sur sept, les sentiments ne concernent que les hommes. Puis deux pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, il ne faut pas non plus en tirer une conclusion sexiste en disant elles sont moins concernées par les sentiments. On est bien d'accord ? Ou il ne faut pas non plus interpréter en disant finalement, ceux qui ont plus besoin d'entendre parler de sentiments, c'est les hommes. N'en tirons pas non plus, mesdames, une conclusion trop hâtive. D'accord ? Alors, il n'est pas parlé des sentiments, parce que dans la parole de Dieu, tout est lié aux sentiments. Tout. Et que toute la relation de Dieu avec les hommes, toutes les relations des hommes avec Dieu et des femmes avec Dieu sont affaires de sentiments, de ressentis, de perceptions. Et lorsque l'apôtre Paul parle dans l'église de Corinthe d'avoir un même sentiment, il s'exprime là dans une église qui est particulièrement touchée par l'incapacité à avoir un sentiment commun. Alors, il faudrait aussi éviter de penser que Dieu n'est, et c'est parfois cette représentation que nous en avons, un Dieu qui ne serait que justice, qui ne serait que sentiment, dans lequel il n'y aurait aucune émotion, ni aucun sentiment qui transparaisse, parce qu'il est tellement parfait que les sentiments eux-mêmes pourraient être ôtés ou disparus de ses qualités, de sa personne. La Bible tout entière nous montre un Dieu qui est sujet aux émotions et aux sentiments. Les émotions et les sentiments. Mais en fait, est-ce que les émotions et les sentiments, c'est la même chose? Est-ce que l'apôtre Paul aurait pu dire « Je vous invite à être parfaitement unis dans un même esprit et dans une même émotion » Ben non. Non, ce n'est pas la même chose, les émotions, les sentiments. L'émotion, on pourrait dire, c'est un état affectif intérieur intense qui va se manifester de manière à la fois mentale, mais physique. Hein. On peut avoir des cris, des pleurs, des éclats de rire, de la tension physique, des crispations, des émotions fortes. Hein. J'ai mal aux tripes, ça me prend au ventre. Hein. Ça peut se manifester comme ça, ça peut être psychique, les émotions. Hein. L'émotion, ce n'est pas la même chose, c'est quelque chose d'intense et normalement d'un caractère assez bref. Alors, quelles sont les émotions qui existent dans notre vie? Si les émotions, ce n'est pas la même chose que les sentiments, c'est peut-être intéressant de savoir quelles sont les émotions qui nous traversent. Hein? Il y a un chercheur, moi j'aime beaucoup m'appuyer sur ce qui se fait en recherche, un psychologue qui a vécu la plupart du temps, enfin il est né au 19e et il est mort au 20e et il est décédé en 2006. Et ça a vraiment été un chercheur dans l'Institut ou l'Université Albert Einstein en Floride qui s'est attaché à la connaissance des émotions et des sentiments. Alors, je me suis dit, tiens, je vais utiliser, j'aime beaucoup les schémas, je vais vous en proposer un. Tu peux mettre le PowerPoint et puis ce qu'on appelle la roue de Robert Plutchik qui a essayé de présenter la roue des émotions. C'est quoi les émotions? Alors, vous avez... Voilà. Alors, je sais que pour les... Là, c'est pour vous inviter. Voilà, ce type de présentation, c'est pour vous dire, quand vous arrivez à l'église, il vaut mieux s'asseoir devant. Ah bah oui. Ceux qui sont derrière, est-ce que... Je vais demander à qui? À Rachid? Tu pourrais me lire le nom qui est là? Les places de devant sont meilleures, hein? Installez-vous. Alors... On détermine les émotions principales comme cela qui nous habitent, ces moments intenses, brefs, cet état affectif intense qui parfois nous saisit. Et lui, il en a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il les a catégorisées et les premières, celles qui sont au centre, c'est vraiment ce qu'on appelle les émotions primaires. Oh, ce n'est pas un cours de psychologie, hein. C'est simplement pour dire c'est quoi les émotions. Lui, il les a déterminées comme cela, avec en jaune, par exemple, l'extase. L'extase, c'est une émotion qui peut être véritablement forte. Peut-être cela vous est-il arrivé dans un temps de relation avec Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, à un moment donné, j'étais au cinquième ciel. En tout cas, je ne sais pas où j'étais, mais j'étais dans un moment... tellement de plénitude, et je suis certain que dans votre relation avec Dieu, il y a eu des moments qui ont été de cet ordre-là. Ce n'est pas des moments, des émotions courantes. Mais quels sont les moments où tout à coup on a été saisi d'une émotion intense dans cette découverte, dans cette relation, dans ce contact cœur à cœur avec Dieu. On n'est pas en extase tous les jours. Hein, ça serait dangereux. Mais c'est une émotion qui existe. Et cette extase, c'est en quelque sorte, j'ai envie de dire, l'émotion primaire qui va donner lieu un cran en dessous à la joie. Donc on monte un petit peu dans le jaune. Et puis ensuite à la sérénité. Ça, c'est des émotions plus ou moins fortes. Il y a l'admiration. On peut être dans un temps émotionnel d'admiration comme cela pour Dieu, pour des valeurs, pour qui nous remplissent tout à coup. On est dans l'admiration totale. Là aussi, c'est une émotion qui peut être très bonne vis-à-vis de Dieu, qui peut être aussi bonne dans la relation avec son conjoint, être dans l'admiration de ce que l'autre est pour moi. Mais ça peut être aussi une émotion qui peut être risquée quand l'admiration débouche sur la dépendance, voire la perte de liberté. Il y a la terreur qui va précéder la peur ou l'appréhension. Ça, c'est des choses que nous connaissons. Ça nous est arrivé souvent de prier pour des personnes qui peuvent être habitées par des terreurs nocturnes. Hein, je me souviens avoir eu ce temps de prière pour des personnes. Eh bien, comment est-ce que cette émotion-là, on peut aussi la prendre en compte. Et puis, ça va aller vers la peur, voire même l'appréhension. Il y a l'étonnement. L'étonnement, c'est une émotion aussi qui... Alors, on peut être d'accord, pas d'accord. Après, vous avez d'autres modélisations, hein, mais j'aime bien celle-ci. L'étonnement qui précède ou qui est le stade le plus fort avant la surprise ou la distraction. L'étonnement, ça peut être une émotion comme ça, très, très forte. Il parle de... Le chagrin. Je pense que tous nous avons, dans la partie bleu foncé, connu cette émotion très forte du chagrin envahissant qui là nous remplit à l'occasion d'une perte, à l'occasion d'une séparation. Dans plein d'occasions, on a pu tous connaître ce que c'est qu'un très profond chagrin. Alors ça dure un temps, et puis avec le temps, les choses se délitent. On peut basculer dans la tristesse, voire dans la songerie. Hein. Les poètes du début du XXe siècle parlaient du spleen. Ça va dans cette catégorie. Il y a une émotion que je me posais des questions parce que je me disais, mais est-ce que je l'ai vécu ? C'est l'aversion ou le dégoût ou l'ennui. Et finalement, je me disais, quand j'entends ce qui se vit aujourd'hui dans le monde, il y a des profonds sentiments de dégoût de ce qui se vit dans le monde. Et il m'arrive dans mon travail, devant le témoignage de femmes qui ont été violentées, blessées, meurtries, je dois l'avouer de plus en plus, un profond sentiment de dégoût de ce que l'être humain peut faire à un autre être humain. Je pense au génocide dans certaines régions, les Houthis, les Tutsis. J'écoutais une émission de musique qui parlait d'un chanteur que vous connaissez, Stromae, qui a créé une chanson qui est devenue un tube planétaire et qui dit « Papa Outé ». Dit « Papa Outé ». Et en fait, cette chanson est née de la perte de son père qui a été tué lorsqu'il avait 6-7 ans, dans le massacre au Rwanda. Il peut y avoir un profond dégoût. Est-ce que ça a existé dans nos vies ? Et puis, l'aversion, le dégoût, l'ennui. Il y a la rage, la colère ou la contrariété. C'est le pétale de cette roue sur la gauche, la rage. Nous pouvons être habités par un sentiment de rage, quelque chose qui nous révolte, qui est plus encore que de la colère et qui nous envahit totalement. J'ai connu des personnes qui, même dans un moment spirituel de prière, sont rentrées dans une rage tellement il y avait un combat à l'intérieur d'eux. Mais il y a aussi la rage que nous pouvons éprouver devant l'injustice, plus fort encore que la colère. Et puis ça aboutit dans le stade suivant à la colère et la contrariété. Et puis, il y a la vigilance, l'anticipation, l'intérêt. C'est toute une forme d'émotion, devenir hyper vigilant parce qu'on a vécu des choses, parce que toutes ces émotions ne naissent pas simplement comme cela, elles naissent aussi d'une expérience, d'un parcours. Je vous ai présenté cela pour que vous puissiez voir ce que sont les émotions. Dans cette roue, Plushnik parle de ces 8 sentiments qui se déclinent ensuite. Et je me disais, est-ce que Dieu est concerné par ses émotions ? Alors certaines, oui. Je pense, par exemple, lorsqu'on est sur le registre de la joie, Dieu parle de sa joie, ou la parole de Dieu parle de la joie de Dieu. Savez-vous que notre Dieu est un Dieu qui manifeste des émotions ? Ouais. Il vibre. On n'est pas devant une icône, on n'est pas devant un Dieu qui est statique, qui se tient dans toute sa majesté, sa gloire, ça on imagine bien. Mais est-ce que notre Dieu est un Dieu qui a des émotions vis-à-vis de nous ? Il est dit dans 1 Chronique 16, 26, « L'Éternel a fait les cieux, la majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » La force et la joie sont dans sa demeure. Il y a dans la présence de Dieu une joie permanente. Ça me rassure, vu qu'on va y passer l'éternité. Non ? Hein ? Si c'est simplement vivre la gloire, la sainteté, etc. Bon, d'accord, le programme est sympa. Mais une joie profonde, permanente, une émotion comme ça qui est installée dans le royaume de Dieu. Le prophète Ésaïe est un prophète qui parle beaucoup de la joie de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui parle, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. » Alors, vous dire, mais oui, mais il s'adresse à nous. Donc nous, on est invités à être dans la joie, dans l'allégresse. « Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Je vais créer Jérusalem pour la joie, pour l'allégresse. « Je ferai de Jérusalem, écoutez bien, je ferai de Jérusalem mon allégresse, dit Dieu, et je ferai de mon peuple ma joie. » C'est-à-dire que nous sommes la joie de Dieu. Ce n'est pas simplement Jérusalem et le peuple d'Israël, c'est que le peuple de Dieu est la joie de Dieu. Moi, je trouve merveilleux de me dire que je suis la joie de mon Dieu. Non, pas vous. Visiblement pas vous. Si, quand même, un peu. Vous savez que quand il vous regarde, il est dans la joie. C'est mon fils. C'est ma fille. Je me rappelle de mon papa qui était un ouvrier maçon qui m'avait adopté, enfin il ne m'a pas adopté officiellement, et finalement après je l'ai regretté de ne pas avoir fait la démarche. Mais quand j'avais, je crois, 5 ans, il a accompagné ma mère dans la cuisine où nous étions, et ma mère m'a demandé si je pouvais l'appeler papa. Et moi, je n'avais jamais appelé quelqu'un papa jusqu'à l'âge de mes 5 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Jamais. Là, pour le coup, c'est des émotions que je n'ai pas vécues jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ce sont des sentiments qui se sont positionnés à moi, on le verra après en travaillant ou en évoquant les sentiments dans la parole de Dieu, c'est des sentiments qui ont été complètement faussés dans ma vie. Quand à 16 ans, on m'a dit que Dieu était mon père, dur, dur, parce que mes sentiments ne reposait sur aucune émotion initiale et même était plutôt déstructuré. Mais mon père, celui que j'ai plaisir à appeler mon père, à 5 ans, m'a fait dire par ma mère, est-ce que tu peux m'appeler papa ? Et il a été un père. Oh, il avait plein de défauts, il était avec de très très grosses très gros défauts, très grosses fragilités, mais il y a une chose sur laquelle je ne dirai pas autre chose. Il a été mon père. Et je me rappelle que j'étais très vietnamien à l'époque. C'est-à-dire, quand on regardait une photo, on ne voyait pas un petit Français, on voyait un Vietnamien. Et il était raciste, mais raciste. Il n'aimait pas les gens du Maghreb parce qu'il avait fait l'Algérie. Il n'aimait pas les gens d'Afrique. Il n'aimait pas les Chinois et les Vietnamiens. et puis se promener avec moi et mon frère qui étions des vrais petits Chinois dans la rue. Et souvent, je me rappelle, il nous emmenait au café pour aller jouer au tiercé, c'était un adepte du tiercé, et la fierté qu'il avait quand il rentrait dans le café, qu'il disait « Ce sont mes fils ». Il avait une fierté. Waouh ! Nous faisions sa joie. Est-ce que nous avons conscience de faire la joie de Dieu aujourd'hui, là, maintenant ? Tu fais la joie de Dieu ! Je suis nul, je ne vaux rien, je n'ai pas de compétences, pas de capacités, mais tu fais la joie de Dieu ! J'ai encore dit, entendu quelqu'un ce matin me dire « Oh non, non, moi j'ai... » C'est ça, moi je ne vaux pas plus que ça. Alors à cette personne qui est là ce matin, je lui dis « Tu fais la joie de Dieu ! » C'est terrible, vous savez, si moi, tenant la main de mon père, je lui dis « Mais tu sais, regarde-moi, je suis jaune, je suis chinois, vietnamien, là, je n'ai rien à voir avec toi, je ne te ressemble pas, qu'est-ce que j'ai à faire de ton amour, quoi ?» Mon père aurait été blessé, affecté. « Mais tu es mon fils !» Est-ce que tu peux regarder ce que tu es et apprendre à avoir les sentiments, on le verra tout à l'heure, qui sont en Christ ? Qui sont en Christ te concernant. Et Dieu te voit au travers de Christ. Est-ce que Dieu peut être rempli d'émotions ? Alors, ces émotions intenses pendant un temps très bref, les émotions, ça ne dure pas longtemps. On est en colère, mais on ne reste pas en colère 24 heures. Certains, si. C'est comme ça que ma femme m'a dit au début du mariage que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et moi, je dis oui, elle peut. Mais j'ai appris à ce que ce soit plus bref, plus court. Ce sont des émotions brèves. Par exemple, Dieu peut être triste. Moi, j'aime beaucoup relire ces passages sur les émotions que Dieu a de notre fête, de notre relation. Ésaïe 63, 10, Dieu parle et dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé mon esprit, et cet esprit est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux, ils ont attristé mon esprit. Pouvons-nous attrister Dieu par nos attitudes, nos comportements ? Et je ne parle pas simplement... J'ai envie de dire, du péché que nous pouvons commettre. Mais aussi de la manière dont nous laissons certaines émotions et certains sentiments occuper le terrain et attrister Dieu. Si moi j'avais dit à mon père, tu sais, moi je ne suis pas ton fils. Je suis tellement différent de toi. Je suis sûr que je l'aurais attristé. Est-ce que nous n'attristons pas Dieu parfois en laissant des émotions ? Des sentiments venir habiter dans notre vie. Dieu est un Dieu qui peut se mettre en colère. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons avec ce chant qui dit « lent à la colère ». Mais s'il est lent à la colère, c'est que parfois, il se met en colère. On peut penser au célèbre épisode du veau d'or où, dans l'Écriture, il est dit que la colère de l'Éternel, c'est dans le Deutéronome, dans l'Exode, s'enflamma contre eux et il s'en alla. Il s'en alla parce qu'il était en colère. Vous imaginez, moi, ça, c'est rare que je parte parce que je suis en colère, mais Dieu qui s'en va parce qu'il est en colère contre son peuple. La nuée se retira de dessus la tente. Vous pouvez penser à la colère qui anima Jésus dans le temple lorsqu'il a vu ce qu'était devenu la maison de prière. La colère, c'est une émotion que Dieu connaît. La peur, non. Je crois qu'il n'y a pas une once, une ombre de peur dans un Dieu qui est pour nous tout-puissant. Et là, pour le coup, ça nous rassure. Je peux me réfugier à l'ombre de tes ailes parce que tu es celui qui est le tout-puissant. Il n'y a pas de peur à avoir dans nos vies parce que notre Dieu ne connaît pas la peur. Il domine. Je suis en train d'aborder la question de la création au niveau doctrinal et je relisais un des principes doctrinal de la création, c'est que Dieu, Bereshit bara Elohim, les trois premiers noms, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa. Et le mot qui est utilisé, bara en hébreu, c'est le mot qui dit créer à partir de rien. Est-ce que vous pouvez créer quelque chose à partir de rien? J'ai cherché. Et en fait, ce verbe-là, à 98% du temps, il est attribué à un Dieu qui crée. C'est dire sa toute-puissance. Comment un Dieu qui n'a devant lui que ce qu'il a créé, parce qu'il est tout-puissant, aurait-il peur de quoi que ce soit? Je ne sais pas si la peur a habité Christ en montant sur la croix. Parce qu'il était cette parole qui a tout créé. Bara Elohim, au commencement, était la parole, et toutes choses ont été faites par elle. Je pense qu'il y avait de la tristesse. Je pense qu'il y avait de la peur parce qu'il était homme, et qu'un homme confronté à la mort est toujours dans la crainte. Il était entièrement homme. Mais ça devait être un sentiment nouveau pour celui qui était Dieu et qui avait créé le ciel et la terre. Comment pourrais-je avoir peur quand celui qui n'a aucune peur à avoir s'est donné et a accepté la peur dans la démarche du salut? Le dégoût. Est-ce que Dieu peut ressentir le dégoût? Vous voyez, le pétale aversion dégoût, ennui. Hein? C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. C'est que cette émotion-là, ben en fait, dans le psaume 95:10, il est dit de la part de Dieu concernant son peuple, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est-à-dire un peuple qui s'est volontairement séparé de moi. J'eus cette race en dégoût. Ça ne l'a pas empêché, malgré cette séparation, ce dégoût généré par la volonté de se séparer de lui, de toujours chercher à le rattraper, à le ramener à lui. Hein, Dieu a des émotions. Le sentiment, donc, ce n'est pas de l'émotion. L'émotion, c'est court, c'est bref, c'est ce qui nous fait réagir aux événements, à l'environnement, etc. Les sentiments, c'est... une évidence, c'est la capacité à sentir, à ressentir. Le sentiment, c'est ce qui me permet de sentir et ressentir. On pourrait dire, la plupart des personnes qui travaillent là-dessus disent, c'est une prise de conscience immédiate, sans intermédiaire, sans distance, des choses, de ce qui nous entoure et de nous-mêmes. Les sentiments, c'est une perception immédiate, une prise de conscience. Voilà, alors c'est un chercheur là aussi du 19e siècle qui a vraiment travaillé uniquement sur cette question des sentiments et des émotions, qui définissait cela en disant le sentiment, c'est la perception du réel modifiée par l'émotion. Et le lien, il est là. Quand j'ai une émotion, cette émotion-là va générer un sentiment du réel, de ce qui m'entoure, et de moi-même, à partir de l'émotion. Et c'est là que les sentiments, souvent Michel le dit, les sentiments peuvent mentir, établir en nous des croyances. Alors quand l'apôtre Paul dit à Corinthe, ayez un même sentiment, les sentiments en question, ce n'est pas des choses qui sont des évidences et des vérités, les sentiments qui nous habitent. Ce sont des sentiments qui sont construits, qui partent de nos émotions. J'ai eu peur, je me suis caché. C'est le premier lien entre émotion et sentiment dans la Bible, dans la Genèse. L'homme qui a péché dit, j'ai eu peur, ça c'est mon émotion. Je me suis caché, j'ai eu honte, ça c'est mon sentiment vis-à-vis de moi-même. Les événements montrent que j'ai honte de ce que je suis. Quels sont les sentiments qui nous habitent? Ayez en vous un même sentiment. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Est-ce à dire que les sentiments qui nous habitent nous donnent une perception de ce que nous sommes et une perception de ce qui nous entoure, qui est fausse, ou qui peut changer ou qui doit changer. L'apôtre Paul est en train de nous dire les sentiments qui sont en vous peuvent changer, peuvent être épurés. Il y a ce texte dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 14, où on voit Jonathan. Son père, Saül, est roi, ils sont en guerre contre les Philistins. À un moment donné, il part tout seul au petit matin. On pourrait se demander pourquoi, qu'est-ce qui l'anime à le faire, uniquement avec son compagnon d'armes. Et puis là, dans le chapitre 14, verset 7, celui qui portait ses armes lui répondit « Fais tout ce que tu as dans ton cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Écoute ton cœur, suis tes sentiments. Hein ? Est-ce que suivre ses sentiments, c'est toujours une garantie d'être dans la vérité? Hein ? Moi, j'aime beaucoup cette question. Quand je tombe amoureuse d'une jeune fille et que j'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans, ou quand je tombe amoureuse d'un garçon, est-ce que mes sentiments sont toujours garantis, je dirais, de vérité? C'est une bonne chose pour moi, etc. Là, le compagnon de Jonathan, j'ai envie de dire, il pourrait se poser des questions quand il dit à Jonathan, fils de Saül, « Écoute ce qu'il y a dans ton cœur, écoute tes sentiments et vas-y. Il y a une armée en face, on n'est que deux, mais vas-y !» Vous savez quoi? Parfois, on fait la même chose. On pense que parce que nous avons des sentiments qui sont basés sur des émotions qui nous permettent de voir la réalité, eh bien que les choses vont bien se passer. Ouais. Il y en a combien qui sont restés sur le carreau de cette manière-là? Et dans notre propre vie, est-ce qu'il n'y a pas des fois où, en se basant uniquement sur notre ressenti, on a vécu des échecs, des souffrances, des douleurs? Ah! Alors, le compagnon de Jonathan a peut-être vécu quelque chose qui lui a permis, en termes d'émotion, d'être dans une admiration. Hein, ouais, l'admiration, ça peut être aussi très trompeur comme émotion. Je suis tellement en admiration devant Jonathan que finalement, on n'est que deux, il y en a 3000, mais on y va. Je rencontre quelqu'un et puis je rencontre Jean-Marc Wangto. Je suis dans une telle admiration vis-à-vis de Jean-Marc Wangto. Je vous comprends, moi-même, le matin, en me rasant, j'ai un sentiment d'admiration qui peut être un peu présent. Que ce qu'il va me dire, je vais le faire. Je vous en prie. Il y a une certitude. Éprouvez vos sentiments dans ce que vous avez à vivre. Parce que c'est d'abord entre vous, le Saint-Esprit et votre Dieu. Quel que soit ce que l'autre peut dire ou faire, ou vous présenter. Et la clé. Alors, oui, mais vous me dites, oui, mais alors, s'il faut tout éprouver, ces sentiments qui peuvent être faussés par des émotions qui sont intervenues dans notre vie, comment faire? Eh bien, l'apôtre Paul donne la clé dans un des autres passages parlant de sentiments, aux Philippiens cette fois-ci. Au chapitre 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alors oui, mais pas de fausse erreur. Il ne s'agit pas de prendre tous nos sentiments, de les mettre dans une valise et au grenier, et se dire maintenant, il n'y a que les sentiments de Jésus, ce que je vois dans la Bible, qui vont avoir droit et place dans ma vie. Non, il s'agit de voir dans nos sentiments, la palette des sentiments que nous vivons, qu'est-ce qui est conforme à la pensée de Dieu. Et il y en a, il y a des sentiments qui ont été posés, vécus, et qui ont toute leur place dans notre vie. Là, c'est les émotions. Tu peux passer la diapo suivante. Là, par exemple, il y a des sentiments positifs. Être épanoui, c'est un sentiment. Parce qu'on a eu une expérience émotionnelle qui fait qu'on est maintenant dans une position d'épanouissement. Ça, c'est un sentiment. Avoir le sentiment d'être épanoui, d'être inspiré. Alors, il y en a toute une. Vous avez remarqué qu'il y a plus de sentiments qu'il n'y a d'émotions. Parce que la palette des sentiments qui se pose en nous, eh bien, sont aussi, je dirais, ou positives ou négatives. Alors, il y en a certaines qui sont à des limites. Hein. Surexcité comme sentiment positif, je ne suis pas sûr que quand on a des enfants surexcités, demandez à Laurence, je ne suis pas certain que si on lui dit « tu choisis un sentiment positif dans cette liste-là pour ton fils », qu'elle dise « ah, je voudrais qu'il soit surexcité ». J'ai la tête de Laurence dans la garderie qui dit « non, 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 non ». Mais peut-être joyeux. Ça, c'est un sentiment. Je suis sûr que là, elle dira « ah oui, mais il l'est déjà ». Il est joyeux. Mais vous savez pourquoi il est joyeux ? Parce que les émotions qu'il vit à la maison, le construisent à poser ce sentiment-là dans sa vie. Mais il y a peut-être, là, pour le coup, d'autres sentiments, être la capacité d'être ému. Hein ? Moi, je sais, dans cette assemblée, quand je connais un peu Lévi, qu'il y a des personnes qui sont capables d'être émues par un beau texte, une photo, une peinture, une musique. Parce que quelque part, il y a eu des émotions. Moi, la première fois, je suis issu d'une famille qui ne laissait aucune place à la culture. Je me suis ouvert à la culture en cachette. Je risque de vous choquer par l'image, mais j'avais l'impression, quand j'étais jeune et que j'avais 14 ans, que j'allais au musée comme certains de mes copains allaient au sex shop. Avec le même sentiment, je dirais, de... c'est pas bien, ça me concerne pas, parce que j'avais honte d'aller au musée et d'avoir un rapport, ou d'oser penser que je pouvais avoir un rapport avec le beau. Il m'a fallu des années pour que ce sentiment soit travaillé par Dieu et qu'aujourd'hui je sois un passionné par certaines choses et que j'y laisse toute la place. Est-ce que vous êtes avec des émotions ? Quelles sont ? Les sentiments qui sont dans votre vie. Quels sont ceux que vous étouffez parce que vous vous dites, non, en tant que chrétien, on n'a pas le droit, ou ceci, ou cela, il y a plein de raisons. Ou parce que j'ai vécu ça dans mon passé, j'y laisse pas de place. Et pourtant, c'est Dieu qui vous a créé avec cette sensibilité, cette capacité, et là on est bien dans la définition du sentiment, de ressentir et le monde et vous-même. Et dans le monde, c'est à la fois les autres, mais aussi ce qui vous entoure. Quels sont les sentiments qui sont en vous ? Ceux qui doivent être épurés, qui ont été déposés par Dieu volontairement, ceux qui doivent peut-être être écartés, ceux qui doivent être guéris. Quels sont les sentiments ? Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. On n'a pas de textes qui nous disent les sentiments de Christ, très peu. Hein. Il y a une profonde tristesse qui est venue l'habiter. Ça, c'était une émotion quand il était devant le tombeau de Lazare. Mais il y a des moments où on le voit en joie. Quels sont les sentiments que vous allez faire grandir ? Que vous ayez 18, 19, 20 ans, ou plus de 80, quels sont les sentiments que vous allez laisser grandir en vous ? Parce que c'est la volonté de Dieu dans sa pensée d'épanouissement pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu veux laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir pour que tout ce que tu es s'accomplisse en Christ ? Je vais m'arrêter dans quelques minutes, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que... Il s'agit aussi de vivre, si on dit que le sentiment, c'est la capacité de ressentir le monde, ce qui nous entoure, et nous-mêmes, alors, je dirais, il est bon d'avoir des sentiments dans sa vie, dans l'Église. Par rapport à soi-même, est-ce que, tu peux passer les sentiments négatifs aussi, pour qu'on reste pas que sur du positif non plus. Sentiments négatifs, c'est être abattu, accablé, affamé, affligé. C'est dans l'ordre alphabétique et on arrive à mal à l'aise, malheureux, submergé, surpris, taciturne, tendu, terrifié. Il y a des sentiments négatifs qui sont là. Est-ce que dans l'Église, ma manière de me percevoir, qui est liée aux émotions que j'ai vécues, je peux accepter que Dieu intervienne et guérisse ma vie ? Et qu'enfin, ces sentiments négatifs puissent se diluer grâce à l'action du Saint-Esprit dans ma vie
et mettre à la place des sentiments qui sont voulus par Dieu et qui sont positifs et constructifs. C'est ça l'œuvre. Quand on parle de sanctification, on a l'impression que c'est uniquement ne pas faire le mal. Non, 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 non. C'est rendre possible ce que Dieu veut faire de nos vies et dans nos vies. Il veut nous faire advenir. Devenir. Advenir, j'aime bien ce mot. C'est comme une renaissance, une naissance. Dieu, allez, est-ce que même à plus de 80 ans, on peut advenir ? Oui ! Amen ! Alors ceux en dessous peuvent aussi. Merci Christiane de cette proclamation de foi. Est-ce que l'incrédulité, l'indécision, l'indifférence ? Alors c'est vrai que, j'ai envie de dire, le rapport au sentiment est peut-être aussi quelque chose qui peut être faussé par notre culture, peut-être aussi par notre position dans la société, homme, femme. J'ai parfois l'impression que les femmes ont une capacité à être en rapport avec leurs sentiments, leurs ressentis d'elles-mêmes et du monde, et que les hommes ont aussi un poids social, j'ai envie de dire, qui les enferme dans un concept de responsabilité. On doit tenir bon, on doit être fort, on doit être ceci, on doit être cela. Ce qui fait que le rapport à soi-même, à ses sentiments, à ses ressentis, finalement, sont presque bloqués, comme si on disait, bah oui, mais moi, il faut que je tienne bon, là, hein, je suis un homme. Et Dieu te dit non. Bien sûr que tu es un homme, mais un homme, c'est pas ça. C'est un être qui est capable d'être en rapport avec lui-même, de laisser cette sanctification s'accomplir, accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie pour devenir ce que tu dois être. Vous savez, Christ, il a été un homme à part entière. On est bien d'accord, dans l'Écriture, dans les Évangiles. Mais lorsqu'il a marché au milieu des hommes, hormis l'épisode du Temple, ce n'est pas par la violence, par la colère, par une apparence qu'il s'est imposé. C'est parce qu'il était profondément un homme selon le cœur de Dieu, selon la nature de Dieu. Et quand Paul dit « ce que je vous demande, c'est de porter les sentiments de Christ, c'est de laisser cette œuvre s'accomplir. » Juste, quels sont les principaux sentiments qui devraient... Il y en a deux que j'aimerais quand même citer, le sentiment amoureux et le sentiment amical. Et je m'arrêterai après. Sentiment amoureux, c'est quelque chose que, quand on en parle, on se dit, oui, bah, on parle de la relation homme-femme, ou dans notre société, homme-homme et femme-femme, mais on parle de ça. Non, pas simplement. C'est certainement le sentiment amoureux, la chose la plus difficile à définir. Vous savez, le sentiment amoureux, on ne sait pas trop si... Alors, il y a des chercheurs maintenant qui disent, c'est... comment on s'appelle ça ? C'est des phéromones qui font qu'on tombe amoureux. C'est-à-dire, il y a un courant de phéromones qui passe, et là, tout à coup, on tombe amoureux. J'avoue que ce regard-là me laisse très dubitatif, parce que d'abord, quand je suis tombé amoureux de ma femme, elle passait la plupart de son temps à 30 mètres de moi, donc, ou alors ces phéromones étaient vraiment très actives. Et je ne pense pas du tout à ça. Mais on ne sait pas comment fonctionne l'amour. C'est très mystérieux. Mais... autant les émotions telles que la joie, le désir physique, quand il s'agit d'un amour charnel, l'excitation, l'attachement, la tendresse, il y a plein de choses qui viennent alimenter ou ne pas alimenter. Combien d'hommes ont du mal à aimer ? Je suis tellement étonné dans ces 25 ans de travail d'avoir des témoignages, plus de 4000 femmes qui ont... avec elles j'ai pu travailler tout au long de ma carrière dans ce centre, combien de femmes ont été des mal-aimées. Parce que des hommes ne savent pas aimer. C'est terrible. Est-ce qu'il n'y a pas là un sentiment à redécouvrir dans toute sa plénitude, dans toute sa pureté, dans toute son efficacité ? Dieu nous parle souvent de son amour. Psaume 22, moi c'est un psaume que j'aime bien. « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime. » Alléluia ! C'est cela la réalité. Et puis un autre psaume, 91-14, Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est une réciprocité. L'amour peut n'être qu'à un sens. On en connaît dans nos histoires de vie personnelle. Moi, j'aime, puis l'autre, même pas. Hein. Mais là, quand cet amour est partagé, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 147, verset 11. Ah, zut. Je sais pas si je vais le lire, celui-là. Ah, ça m'embête. Proverbe 3, 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Bon, je vous le donne quand même. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Eh oui, oui. Théo de l'autre côté, je suis sûr que ses parents l'aiment, j'ai aucun doute. Mais parfois, ils lui disent, bah non, tu peux pas, non, t'as pas le droit, voilà le cadre, etc. Et puis parfois, ils peuvent aussi lui dire, bah non, tu vas être puni, hein, parce que... J'ai assisté à ça avec deux de mes petites filles. Il y en a une qui a été punie, et l'autre, par solidarité, 2 ans et demi, elle s'est punie avec sa cousine. Alors, je dis, bah voyons, ah, j'ai aimé l'amour, là. Dieu nous aime. Et Dieu ne se contente pas de nous de montrer qu'il aime, il le dit. Messieurs, dites à vos conjointes que vous les aimez. Mesdames, dites à vos conjoints que vous les aimez. Dites à vos enfants que vous les aimez. Hein, comme le dirait Louis Chédy dans sa chanson. Il n'y a rien de plus beau que de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Disons, Dieu n'a pas peur de dire « je t'aime ». Et puis le sentiment amical, je terminerai avec ça parce que je trouve que c'est un sentiment qui est l'amitié. Le sentiment amical, c'est quelque chose de très fort. Vous savez, dans nos vies, il ne faut pas se leurrer. On est en église, on est des frères et sœurs. Et je dis souvent... Au-dessus du sentiment de fraternité, il y a l'amitié. Aïe. Ah non, l'amitié, c'est en dessous. Ah, je ne suis pas sûr. Je crois qu'on peut être frère et sœur, mais qu'au-dessus, être ami, c'est autre chose. Moi, j'ai des amis de 82, 83 ans jusqu'à des amis plus jeunes. Le sentiment amical, c'est quelque chose que Dieu veut aussi poser dans notre vie. Il y a peut-être une différence avec l'amour. L'amour, ça peut être à sens unique. Mais le sentiment d'amitié, ça ne peut pas être à sens unique. On ne peut pas être ami avec quelqu'un si l'autre n'est pas ami avec moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai... J'ai 63 ans. Je l'ai accepté il y a 5-6 mois. C'est du chemin quand même, hein. J'ai accepté que des personnes que je considérais ou que je voulais fermement avoir, avec lesquels avoir un sentiment d'amitié, une relation d'amitié, j'ai accepté que ce soit que de mon côté et donc que j'abandonne cela. C'est récent, hein, 5-6 mois. Une personne que j'ai connue dans ma jeunesse quand j'avais 17 ans, vous voyez. Mais je me suis rendu compte, finalement, il y avait que moi qui étais ami. Donc ça ne marche pas. Je vous le dis, ça ne marche pas. Et puis, il y a d'autres personnes pour lesquelles je me suis dit, bon, ben voilà, on est en relation, mais il n'y a pas de sentiment d'amitié. Mais dans la parole de Dieu, je crois qu'il y a une relation que Dieu veut entre moi et lui qui relève aussi de l'amitié. Croyez pas ? Avoir un ami, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que Christ est mon ami ? Moi, j'ose dire que ma meilleure amie dans ma vie, j'ai une personne qui est ma meilleure amie, c'est ma femme. Alors, je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, mais c'est vrai que c'est ma meilleure amie. C'est avec elle que j'ai envie de passer du temps. C'est ma meilleure amie. Et j'essaie de construire cette relation d'amitié. Mais Dieu est aussi quelqu'un avec lequel il y a une relation d'amitié à construire. Dans le psaume 55, « C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Il y a une définition de l'amitié que je trouve formidable. C'est toi que j'estimais mon égal. Psaume 55, 13 ou 55, 14. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Est-ce que ce n'est pas cette amitié-là que Dieu attend qu'il y ait entre nous ? C'est pas, je dirais, Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui se met au-dessus de nous et qui nous écrase. Il se dit, voilà, je te veux, mon frère.
mon co-héritier. Je te veux dans cette relation d'intimité, d'échange, de partage. Dans les Proverbes, il est reproché à quelqu'un de celui qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Et je trouve que les deux juxtaposés, Proverbe 2:17, est intéressante. Oubliez que l'alliance que Dieu passe avec moi, c'est afin que je devienne son ami. Une relation, lui, moi, moi, lui. Le Proverbe 3:32 dit aussi, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits, pour les femmes qui vivent dans la droiture. Il est un ami. Et à ce moment-là, la relation vient différente. Vous savez, les amis, ce n'est pas des gens qu'on voit, je dirais, une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, avec une carte à l'anniversaire, une carte à Noël et éventuellement une carte au jour de l'an. Non, c'est quelqu'un avec lequel on tisse du lien. On tient à ce lien. On le désire. Je vous laisse toutes ces pensées sur à la fois avoir les sentiments qui sont en Christ, parce que ces sentiments-là, je vous l'assure, ces sentiments-là sont de son côté. Il le désire. Il désire savoir que nous sommes aimés, il désire nous faire savoir qu'il est notre ami. Et nous, quels sont les sentiments qui nous habitent et comment laissons-nous l'Esprit Saint épurer, guérir les émotions qui ont pu poser des sentiments négatifs pour que nous entrions dans une vie nouvelle. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit Dieu. Seigneur, nous voulons simplement nous placer devant toi et te dire, il y a en toi toutes les sources de la guérison, tous les chemins de guérison. Il y a en toi les choses nouvelles qui nous concernent. Tout ce qui est du passé qui peut être transformé, tout ce qui est en nous qui est bon et que tu peux encore faire fructifier, développer. Seigneur, nous t'en prions, guéris nos âmes, dépose en nous ces sentiments qui sont ceux de Christ et qui ont cette possibilité de s'épanouir, de grandir en nous. Guéris ce qui est blessé, mais accomplis ton œuvre, c'est là ce que nous te demandons. Que nous puissions avoir en nous les sentiments qui sont en Christ. Amen.